Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, actualité, question du jour et puis d'autres petits trucs. Alors, dans cet épisode, je voulais juste vous parler, avant de démarrer, du home gym minimaliste. Alors c'est quoi le home gym minimaliste ? C'est l'idée de pouvoir s'entraîner à la maison, dans un petit espace. Par exemple dans un studio ou dans un T2, voilà, enfin bon, dans ce genre de choses. D'ailleurs, il y a une marque qui a lancé, alors c'est un projet sur Kickstarter qui s'appelle Pivot Fitness, je crois, P-I-V-O-T, plus loin Fitness, qui va proposer, parce que là c'est en cours de développement, donc vous savez, Kickstarter c'est les trucs participatifs, là où vous financez un projet pour qu'il puisse sortir de terre, entre guillemets. Et dans ce projet, en fait, c'est un lit. Donc, vous savez, en fait, à l'ancienne, un petit peu ces lits qu'il y avait dans les chambres d'hôtel où le fermier contre le mur, en fait, vous tirez le lit, hop, et il se remonte contre le mur. Et parfois, il y avait un canapé, parfois, il y avait un bureau à la place quand vous le fermez. Et du coup, ça faisait du 2 en 1. Et bien là, en fait, c'est du 2 en 1 à la mode fitness. C'est que quand vous le fermez, vous avez une barre de traction qui sort, un rack, enfin bon, voilà, tout un équipement qui sort pour vous entraîner. Je trouve le concept super intelligent. Parce que beaucoup de personnes, en fait, elles n'ont pas le luxe de pouvoir s'entraîner à la maison dans une pièce dédiée. Et le fait de pouvoir transformer la chambre sans avoir besoin de bouger tous les meubles. Là, votre lit est fait au carré, vous le fermez, hop, il y a votre home gym qui sort. Donc ça peut être aussi l'idéal pour les personnes qui ont une chambre d'amis. Et ils n'ont qu'une chambre d'amis, qui n'ont pas envie de transformer en home gym parce que voilà, ils reçoivent la famille, je sais pas, les parents, enfin j'en sais rien en fait. Et donc du coup, ils peuvent transformer ça en home gym en un mouvement, on va dire. Je trouve le concept intelligent. Et j'avoue avoir été séduit par ce truc-là. Bon, moi j'en aurai pas dans l'immédiat parce que j'ai pas la chambre pour faire ça. Moi, dans ma chambre, j'ai pas d'équipement de fitness et je m'entraîne pas dans ma chambre parce que vous allez le voir par la suite. Moi, je m'entraîne d'une autre façon. Mais encore une fois, c'est un outil. C'est quelque chose qui se. Il y a des personnes qui trouveront leur compte là-dedans et je trouve ça intéressant. Deuxième chose. Donc, j'ai fait ce week-end la visite de mon home gym minimaliste. Alors, c'est quoi? Je le répète, un home gym minimaliste, c'est un home gym qui se fait et qui se défait. C'est-à-dire que c'est un home gym qui ne reste pas tout le temps monté. Par exemple, si vous avez un garage aménagé en salle de sport, ça n'est pas un home gym minimaliste, c'est un home gym, tout simplement. Si vous avez une chambre d'amis qui est pas une chambre d'amis, mais qui est un home gym, c'est pas un home gym minimaliste, c'est un home gym. À partir du moment où vous rentrez dans une pièce et que le matériel est déjà vous attend, en fait, il est prêt à l'emploi, vous avez un vrai home gym. Le home gym minimaliste, c'est quelque chose de plus plus minimaliste, en fait. Hein. C'est de pouvoir sortir votre équipement, assez peu d'équipement finalement, pour faire le maximum de choses. Donc, c'est-à-dire d'avoir le moins d'équipement possible, tout en ayant le plus possible de choix de mouvement, de travail, de groupe musculaire, etc. Donc, en fait, ce week-end, j'ai sorti ça. C'est une vidéo où je fais le tour de tout mon home gym minimaliste, donc comment je range les poids, comment je sors en moins d'une minute tout mon équipement. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont dit « moi je peux pas m'entraîner, t'as vu la taille de mon appart, c'est pas possible », parce qu'ils ont un appart, un T2 ou un studio. Et en fait, c'est se mettre des barrières, parce que ils ont en tête l'image d'un home gym, donc c'est d'avoir tout un tas de matos qui reste toujours monté, et ils ont pas eu l'ouverture d'esprit de se dire bon, par rapport à ce que j'ai, où est-ce que je peux stocker, comment je peux faire pour que ça soit facile à sortir et à ranger, etc. Et en fait, le travail, moi, je l'ai fait depuis des années, enfin pas depuis des années, mais depuis plus d'un an et demi maintenant. Alors moi, des équipements d'entraînement à la maison, ça fait peut-être 8 ans que j'en ai à la maison. Mais vraiment que je m'entraîne en home gym, c'était à peu près un an avant le Covid que j'avais commencé à m'entraîner comme ça. Donc, si vous voulez, j'ai déjà réfléchi à tout un tas de stratégies pour que ce soit facile à l'emploi, que ça dénature pas la déco aussi, parce que ça, c'est important. Quand vous avez un lieu de vie qui est agréable, un appartement ou une maison ou je sais pas où vous vivez, mais un endroit où c'est plutôt sympa, ça peut même être une chambre d'étudiant ou n'importe quoi, vous n'avez pas forcément envie de dénaturer la déco parce que vous avez fait un environnement qui vous convient, qui vous plaît, qui vous détend, etc. Et vous n'avez pas envie qu'en plein milieu, il y a un banc de développé couché ou un rack à squat. Enfin bon, voilà. Et en fait, ben moi, c'était la même chose. J'aime bien mon intérieur, donc j'avais pas envie de le dénaturer. Donc j'ai choisi certaines choses et j'ai pris certains réflexes pour que ce soit agréable à l'œil et aussi pratique pour s'entraîner. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit simple à sortir et simple à ranger. Et que je puisse faire pas mal de choses, parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont dire ouais, tu prends une bande élastique, une corde à sauter, tu peux le ranger dans un tiroir, ça se voit pas et tu peux t'entraîner. Ouais, mais bon, pour développer des gros pecs ou des gros bras ou des grosses cuisses, c'est pas forcément l'idéal. Donc le but, c'est de pouvoir travailler lourd, de pouvoir avoir plusieurs exercices, etc. Tout ça dans un petit espace. Donc c'est sorti dimanche à 10h, la vidéo fait à peu près 1 heure. Il y a plusieurs caméras qui tournent en même temps, histoire de bien vous montrer comment je fonctionne. Je vous ai même inclus dedans un fichier PDF avec la liste des équipements, avec des liens sur où est-ce que vous pouvez les trouver, etc. Donc c'est les équipements que moi j'utilise. Il n'y a pas de sponsoring là-dedans. Hein. C'est pas une marque qui m'a envoyé des trucs et je vous les propose. Hein. C'est vraiment moi, mes propres choix. Et d'ailleurs, j'ai failli faire une erreur. Par rapport à un banc, et je vous expliquerai pourquoi aussi. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais il y a plein de petites infos si ça vous intéresse. Il y a le lien dans les notes de l'épisode. Ça s'appelle Mon Home Gym Minimaliste et vous avez le lien pour aller voir ça si ça vous intéresse. Voilà. Par rapport toujours sur le thème du home gym, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se seront découvert un trait psychologique particulier durant ces périodes-là, 2020, confinement et compagnie. Il y en a qui se sont découverts une caractéristique qu'ils ignoraient, c'est la motivation d'être capable de s'entraîner à la maison, sans miroir, sans personne pour les voir, sans partenaire d'entraînement, sans mood spécial à l'entraînement. Le mood, c'est quoi? C'est l'humeur, on va dire, l'humeur à vous entraîner, qui est conditionnée aussi par le fait d'aller à la salle de gym. Hein. J'en parle régulièrement, mais vous savez, le fait de monter dans sa bagnole ou de prendre les transports en commun pour se rendre à la salle de sport, d'ouvrir la porte de la salle de sport, de sentir les odeurs de la salle, de sentir l'ambiance, de voir la personne qui vous accueille, de voir les pratiquants s'entraîner, de voir les machines, de voir tout ça rentre dans le conditionnement, c'est-à-dire que ça vous prépare à l'effort. Pourquoi ? Parce que c'est des habitudes. Vous savez que quand il y a cette odeur, plus cette lumière, plus ce mouvement, plus cette localisation, plus ces personnes, c'est tout ça, c'est un conditionnement à vous entraîner. Et il y en a qui se sont découverts une forme de motivation et de discipline à s'entraîner à la maison sans tous ces conditionnements. Et donc déjà, je voudrais à la fois les féliciter, mais aussi, je vais être honnête avec vous, c'est surtout vous qui vous devez vous féliciter si vous êtes dans cette catégorie, parce qu'il y a beaucoup de personnes malgré tout qui s'entraînent quasiment tous les jours et qui sont encore un petit peu avec un tempérament pessimiste par rapport à la forme physique et tout. Les salles n'ont pas ouvertes, elles vont pas réouvrir avant janvier, etc., etc. Mais alors qu'elles oublient un petit peu de se féliciter d'être capable de 3, 4, 5 fois par semaine de faire le job, de s'entraîner. Et je pense qu'à un moment donné, faut en fait composer avec ce qu'on a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas faire plus que ça. C'est-à-dire plus que de l'entraînement à la maison ou sur des parcours de santé ou autre. Dites-vous bien que si vous êtes capable de le faire, vous êtes déjà au-dessus de beaucoup de personnes par rapport à ça. Et à l'inverse, il y a des personnes... Alors quand je dis au-dessus, n'y voyez pas de trucs supérieurs ou autres. Quand je dis au-dessus, c'est que vous êtes capable de faire des choses que beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire par manque de motivation et manque de discipline. Et à l'inverse, comme je dis là, il y a des personnes qui se sont découvertes un manque cruel de motivation. Et donc, ces personnes-là, je les invite à se remettre un petit peu en question sur le pourquoi elles s'entraînent. Est-ce qu'elle s'entraînait pour des raisons sociales, c'est-à-dire d'aller au club, de voir des gens, de fréquenter d'autres personnes, de couper un peu de l'univers boulot et de l'univers maison, d'avoir un univers en fait où elle retrouvait d'autres personnes. Et on peut comprendre que ces personnes-là, ben, c'est hyper fragile comme motivation à s'entraîner, parce que comme on le voit là, on n'a plus le droit d'aller en salle de sport, donc les personnes ne s'entraînent plus. Donc essayez de creuser un petit peu plus profondément pour trouver des sources de motivation autres. Alors chacun a ses motivations, mais c'est vrai que pour une personne qui est depuis des années en salle de sport et qui n'évolue pas physiquement, qui n'a pas réussi à avoir de super résultats, on voit bien que cette personne-là n'a pas de motivation profonde ni de désir profond à changer physiquement. Parce qu'une personne qui a un désir profond de changer physiquement, elle va enchaîner une liste longue comme le bras d'essais erreurs pour trouver ce qui fonctionne pour elle et donc du coup réussir à atteindre des objectifs. Si les personnes n'arrivent pas à avoir des bons résultats, ni même des résultats au bout de plusieurs années d'entraînement, c'est que la raison pour laquelle elles vont s'entraîner est tout autre que d'avoir un bon physique. Sinon, enfin, je veux dire, c'est un petit peu, vous savez ce que disait Einstein, faire toujours les mêmes choses, enfin, c'est pas exactement ça, mais il disait grossièrement essayer de faire tout le temps la même chose en espérant avoir des résultats différents. Bah, c'est un petit peu ce que font ces personnes-là si elles espèrent avoir un bon physique. Au bout de 2-3 ans, si le physique n'a pas bougé, c'est que forcément, il y a quelque chose qui marche pas. Soit la personne s'est trop longtemps attardée sur l'entraînement et pas assez sur la nutrition, soit la personne fait la mauvaise forme d'entraînement. Enfin bon, il y a certainement des choses à travailler, obligatoirement, puisque toute personne peut changer. Donc voilà. Bon, je m'arrête sur cette partie de l'entraînement. Donc encore une fois, le home gym minimaliste, je le répète, c'est le lien, donc c'est la partie payante, c'est ce qui paye mon loyer, c'est ce qui paye ma bouffe, c'est ce qui me permet de vivre, donc c'est la partie VIP. Je sais que vous écoutez pour certains le podcast depuis des années et vous vous dites, tiens, un jour faudrait quand même que je teste son truc là, son offre. Eh bien, allez faire un tour. Ça vous coûtera moins de 10 euros pour tester pendant un mois. N'oubliez pas que vous avez l'offre satisfait ou remboursée de 7 jours si ça vous convient pas. Je crois que des non satisfaits, j'ai dû en avoir même pas une dizaine depuis l'ouverture du truc. Donc, je peux vous garantir que si vous êtes passionné et que vous aimez du contenu pédagogique pour avancer, et si vous sentez que vous avez l'esprit plutôt en lien avec le mien sur la pratique style de vie fitness et tout, allez y faire un tour. C'est qu'une extension plus du podcast avec beaucoup de conseils pratiques, du concret, des concepts, etc. Donc le lien est en note de l'épisode et on passe aux actus. Alors les actus de la semaine. La première, c'est des bénéfices du sport en fait. C'est une petite actu, on va dire people. Alors c'est Jerry Schoenfeld c'est un humoriste. Donc un humoriste, je crois, alors américain ou anglais, je me rappelle plus. Je vais vous dire ça tout de suite pour avoir les données viables. Donc Brooklyn, New York. Donc c'est un américain qui parle. En fait, il a 66 ans et c'est quelqu'un qui parle des bienfaits du sport, de l'entraînement sur son équilibre en fait. Alors je le cite. Hein, il dit l'exercice et la musculation. Plus la méditation transcendantale, je pense, pourrait résoudre à peu près la vie de n'importe qui. Donc, il y va fort. Il dit, donc, Schoenfeld, à 66 ans, a ensuite décrit le régime d'entraînement actuel qu'il utilise, qui comprend 3 séances de musculation par semaine et 3 séances de cardio à haute intensité. Il dit, il y a beaucoup de jours où je veux pleurer au lieu de faire ça, parce que ça fait vraiment mal, en fait, physiquement, c'est ce qu'il dit. Une grande partie de sa vie qu'il a eue, il dit qu'il n'aime pas être déprimé, qu'il est souvent déprimé d'ailleurs, et qu'il déteste ce sentiment et ses routines très difficiles, que ce soit de l'exercice ou de l'écriture pour son travail. C'est des choses brutales, mais qu'il juge en fait nécessaires pour son équilibre. Et bon, souvent on le voit chez les humoristes qui a en fait c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ils ont souvent cette double facette où ce sont des gens qui nous font rire et à l'inverse qui ont des travers un petit peu dépressifs. Et lui finalement il montre cet équilibre là. Alors le témoignage je le trouve intéressant dans le sens où par des choses, et je vais pas dire simples, mais par des choses qui, alors c'est pas confortable de s'entraîner, mais c'est des choses simples dans le sens où c'est des choses qui sont non. On n'a pas besoin d'argent, en fait, pour le faire. Et ce genre de traitement gratuit pour des personnes qui jugent qu'elles ont souvent des phases comme ça de déprime, etc. dans leur vie, je trouve ça intéressant. Alors, méditation transcendantale, c'est pas de la méditation classique, hein. La méditation transcendantale, elle est plus bornée, elle est plus cadrée. C'est avec avec des mantras, etc. Enfin bon, bref. On a assez peu de données dessus parce que la méditation transcendantale, ça a été, il y a tout de même un business autour de ça avec des maîtres qui vous enseignent, etc. Donc elle est un petit peu moins populaire et il y a un peu moins de contenu gratuit dessus. Mais je crois qu'Arnold y parlait, il disait l'avoir utilisé, etc. Dans le passé. Donc ça veut dire que au moins dans les années 70-80, on en parlait déjà pas mal. Aujourd'hui, ça revient forcément avec le mode de vie actuel où on va à 100 à l'heure, etc. Mais il y en a qui commencent à se rendre compte que ce genre de choses, ça peut fonctionner pour essayer de rééquilibrer un petit peu les routines de vie. Mais bon, voilà, méditation. En fait, d'essayer de d'épuiser son corps physiquement, de prendre du recul mentalement, etc. C'est quelque chose que Jerry Schoenfeld approuve en tout cas, et je trouvais ça sympa. C'était dans Men Health, cela qu'il en parlait. C'est une interview, des petites notes d'interview que j'ai pu traduire. C'est toujours intéressant, j'aime bien avoir ce genre de retour. Bon, on continue. La deuxième actualité, c'est 60 millions de consommateurs qui a fait une étude sur le saumon fumé, parce que forcément, on arrive dans la période où il va y avoir des grosses promos, etc. Moi, j'aime bien de temps en temps consommer du saumon fumé. Pas souvent, parce qu'au bout d'un moment, on s'en écœure, et puis c'est quand même très riche en sel, etc. Mais bon, périodiquement, dans mes recettes, j'aime bien en mettre. Et donc, du coup, là, je vais vous en parler parce que je pense que vous aussi, de temps en temps, vous aimez bien en mettre. Et donc, il y a plusieurs infos. La première info, c'est sur les 3 métaux lourds recherchés dans les 15 saumons et les 15 truites fumées. Ils ont analysé cadmium, mercure, le plomb, etc. Seules de très faibles traces de mercure ont été repérées dans certaines références. Des traces quasi indétectables dans une tranche d'environ 40 grammes de poisson fumé. Bonne nouvelle également du côté des substances antiparasitaires que l'on sait nocives pour la santé humaine. Sur les 30 échantillons testés, aucun n'en contenait. Bon, première bonne nouvelle. Deuxième nouvelle qui est moins glorieuse. Les résultats de 60 millions de consommateurs sont moins roses en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc HAP. Des substances dégagées lors du fumage du poisson, certaines étant considérées comme cancérigènes, moi j'aurais dit cancérigènes, mais bon bref. Le saumon fumé Odyssée et la truite fumée Carrefour Bio contenaient des HAP, donc des hydrocarbures blablabla. Problématique. Pire, le saumon fumé Casino Délice Label Rouge dépassait les valeurs autorisées avec 17 UG de benzoapyrène par kilogramme de poisson, tandis que la valeur maximale est de 2 UG par kilo. Dernier souci mis en lumière par l'enquête de 60 millions de consommateurs, le sel. En moyenne, une tranche de saumon fumé suffit pour couvrir un quart de la limite journalière en sel conseillée par l'Organisation Mondiale de la Santé, donc l'OMS. Parmi les poissons fumés testés, le saumon fumé bio La Vie Claire détenait la palme avec 1,36 g de sel pour seulement une tranche, à éviter absolument en cas d'hypertension artérielle. Donc là, en fait, moi, ce que ça me montre, bon, tout le monde sait que le saumon fumé, c'est riche en sel, tout le monde sait que le saumon fumé, c'est beaucoup plus transformé, il y a beaucoup plus d'additifs que dans du saumon brut. Mais là, ce que ça montre, c'est que dans des marques bio, ou Label Rouge, ou même de La Vie Claire, c'est une franchise, enfin, en tout cas, c'est une ligne, enfin, des boutiques bio, quoi. Alors, on voit qu'il y a quand même, c'est pas là-dedans qu'on va trouver il y a quand même des problématiques aussi là-dedans. Donc, je sais que pour la plupart des personnes qui m'écoutent le savent, mais allez faire vos courses en magasin bio, allez acheter quelques produits en magasin bio, ça ne dédouane pas de regarder les étiquettes, ça ne n'exclut pas d'avoir des produits de mauvaise qualité. Vous pouvez trouver des produits nocifs, mais qui sont estampillés bio, donc il faut faire attention. C'est pas parce que le sel, c'est du sel bio et que c'est un poisson bio que ça va être bon. Trop de sel, c'est trop de sel par défaut. Évidemment, c'est mieux d'avoir trop de sel dans un aliment avec moins de problématiques en termes d'additifs et tout ça qu'un produit équivalent en sel avec plein d'additifs. Mais le sel reste une problématique dans tous les cas quand il y en a en excès. Donc voilà. Bon, il faisait un petit rapport comme ça. Moi, je trouve que ça apporte pas énormément de données. C'est pas pour les marques à éviter à prendre, hein. C'est pas là-dessus que je voulais vous orienter. C'est plutôt sur cette notion de bio et de sain. En fait, il faut pas associer bio et sain par défaut. Il faut associer bio et sain quand la composition est détaillée, quand vous l'analysez, etc. N'oubliez pas qu'un bon repère, si vous voulez bien manger, c'est la liste des ingrédients. Si vous commencez à acheter un produit et que la liste des ingrédients elle dépasse les 5-6 ingrédients alors que vous pensez prendre un produit brut, c'est quand même problématique. Logiquement, un produit brut, c'est un aliment. C'est-à-dire que quand vous achetez du poisson, il devrait y avoir marqué 100% saumon, 100% truite, 100%, je sais pas, flétan, etc. Quand vous achetez un aliment, par exemple du poisson, et que vous commencez à voir poisson émulsifiant, agent de texture de machin, sucre, sirop de maïs et tout, ben là vous commencez à avoir un produit transformé. Donc du coup vous pensez prendre une source de protéines saine et brute alors que vous prenez un aliment complètement transformé. Et ça, vous pouvez le retrouver même dans des magasins bio. C'est pour ça que il faut vraiment être vigilant là-dessus et que de toute façon, la meilleure façon de manger, c'est pas une mode ou une méthode ou autre, c'est juste d'avoir des aliments les plus bruts possibles. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Un aliment transformé reste un aliment transformé. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les éviter, etc. et devenir complètement sectaire, mais il faut juste en avoir conscience et de ne pas se laisser avoir. Par exemple, là, ce matin, je partageais une recette. Enfin, hier matin, vous avez dû la recevoir hier, une recette où je montrais des haricots blancs un peu à l'anglaise à la sauce tomate. Certes, ça reste mieux que des pâtes carbo, des choses comme ça, mais si vous le prenez en boîte, ça reste tout de même un aliment transformé. Donc, du coup, je donne aussi la version clean, comment faire pour avoir la version la plus clean possible. Mais faut pas être dans le déni, se dire légumineuse égale ok. Non, légumineuse, mais on y a ajouté aussi d'autres choses qui font que ça n'est plus quelque chose de 100% sain. On est mieux que beaucoup de choses, mais on n'est pas sur l'idéal. Donc voilà, c'est juste une prise de conscience qu'il faut avoir parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas du tout la nutrition, que ce soit des coachs, que ce soit des personnes du quotidien qui font du fitness, etc. Ils ne maîtrisent pas la nutrition comme il faudrait la maîtriser pour pouvoir tenir sur le long terme. En fait, plus une personne compte les calories, les macros, les protéines et tout ça, j'ai pu remarquer que c'était une personne qui ne maîtrisait pas en fait la nutrition. Parce que quand on commence à comprendre vraiment les fondamentaux, c'est-à-dire de ce qu'il faut, ce qui marche comme carburant, on peut s'extraire de ces idées de comptage des calories, de comptage des protéines et tout, parce qu'il y a une certaine logique qui s'installe. Et quand on a une assiette face à soi, on sait exactement si elle est compatible avec une sèche, si elle est compatible avec une prise de masse musculaire, si elle est compatible pour un sportif ou un sédentaire. On le sait, ça, parce que ça devient quelque chose d'ancré. Alors peut-être que je parle parce que moi j'ai de l'expérience et que je baigne dedans depuis des années et que je lis en permanence tous les soirs avant de me coucher des bouquins qui en parlent. Je sais pas, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas, si vous voulez, je l'ai vraiment remarqué ça, plus les personnes essayent d'être cartésiennes sur leur alimentation avec des chiffres, des courbes, des valeurs et tout, moins finalement elles comprennent la nutrition. C'est-à-dire qu'elles ça les rassure d'avoir des chiffres, ça les rassure de compter, d'être dans des valeurs, etc. Donc du coup, ça les rassure tellement qu'elles oublient de regarder au fond des choses. N'oubliez pas que la nourriture que vous consommez, elle nous traverse. C'est-à-dire qu'il y a une forme brute dans l'assiette et une forme dégradée, on va dire les déchets, qui finissent dans les toilettes, en gros. Mais entre le passage de votre bouche aux toilettes, ben, il va y avoir plus ou moins de déchets déjà, en fonction de la teneur en fibres, des choses que vous n'allez pas assimiler, etc. Mais durant ce passage, en fait, vous allez extraire, enfin vous allez essayer d'extraire, en tout cas de maximiser l'extraction, de prendre ce qu'il vous faut et de laisser ce qu'il ne vous faut pas. Et donc du coup, quand vous comprenez ça, vous savez que quand vous mangez un blanc de poulet, il a beau faire le même nombre de calories qu'un équivalent, admettons, en pâte ou même en une source de protéines haute comme le soja, les impacts sur le physique ne vont pas être les mêmes, ce que vous allez en retirer, ça va pas être la même chose également. Donc ces choses-là, pour moi, à mon sens, c'est bien plus important à comprendre que simplement ça apporte 20 ou 30 grammes de protéines, 5 à 10 grammes de graisse, etc. Donc comprendre ce qu'on mange, c'est pareil, même là, je fais un raccourci rapide par les graisses, mais les graisses, quand les gens disent qu'il faut 1 gramme de graisse par kilo de poids de corps, bon, c'est une valeur, ok, pour se donner une idée de ce à quoi ça ressemble, pas de problème. Mais par contre, les graisses ne se valent pas. Enfin, je sais que là, je parle à des gens convaincus, mais évidemment que si vous prenez une côte de porc et que vous rentrez ça dans vos graisses, ben oui, ça reste des graisses animales, il en faut un petit peu, pourquoi pas, mais vous ne pouvez pas vous dire je vais avoir mes 1 gramme de graisse par kilo de poids de corps provenant de la graisse animale. Non, parce que l'idéal étant d'en avoir, ben voilà, qui provient, admettons, je vais dire des exemples comme ça, mais d'huile de colza, d'huile d'olive, d'oméga 3, d'avocat, de noix, d'amandes, de choses comme ça, ou de jaune d'œuf même. Et en fait, c'est la diversité et la logique, l'approche globale en fait qu'il faut avoir par rapport à l'alimentation qui fait que plus vous allez connaître, plus vous allez être sachant là-dessus, moins vous aurez besoin de compter et d'être cartésien en fait sur tout ça. N'oubliez pas que les calculs et tout, c'est pour moi, c'est quand on ne maîtrise pas suffisamment son sujet, les chiffres rassurent toujours. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, et je les décourage pas, continuez à calculer si ça vous rassure et si ça vous permet de tenir une diète. Mais ça ne vous dédouane pas d'apprendre. Parce que plus vous allez apprendre, imaginez si vous êtes sûr de faire les bons choix au supermarché ou au primeur et tout ça au niveau des aliments, et qu'en plus vous comptiez, ben vous allez avoir une diète encore plus améliorée. Donc si compter pour vous vous rassure énormément, c'est très bien, mais apprenez quand même la nutrition, parce que ça va vraiment, sur le long terme, vous permettre de lâcher un petit peu de lest par rapport à certaines obsessions que certains peuvent avoir, par exemple sur les compteurs de calories, vous savez, les MyFitnessPal et tout ça. Mais surtout, ça sera des bonnes habitudes à terme. En fait, les bonnes habitudes se prennent comme ça, hein. C'est par des réflexes qu'on prend sans y penser, en fait, hein. C'est pas en se forçant à compter. Ça, je pense pas que des gens arrivent à tenir toute leur vie à compter sur leur iPhone combien j'ai mangé de calories, etc. Bref, allez, on passe à la question. La question, c'était une question de Alexis qui m'a signé son message, donc je pense qu'il n'est pas anonyme. Je bois un petit coup et je vous la pose. Alors, salut Théo. Tout d'abord, je souhaitais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Bah, avec plaisir, c'est mon travail et puis c'est ma passion, donc ça tombe bien. Ma question est, quand j'étais enfant, jusqu'à mon adolescence, j'ai été en surpoids. J'ai perdu tout ce poids à l'âge adulte, faisant de la musculation depuis 3 ans, ayant une alimentation assez correcte. Ok. Malheureusement, mes hanches sont trop larges, sont plus larges même, dû à la croissance, comme il dit, par rapport au haut de son corps. À ça, j'ajoute une bouée tout autour du bas des abdos, malgré une alimentation saine. As-tu des conseils pour que visuellement cela ne se voit pas ? J'ai des clavicules courtes. Merci, Alexis, qui a 30 ans, donc qui a à peu près le même âge que moi. Bon, Alexis. Déjà, par expérience, je peux te dire une chose, c'est que quand tu me dis malgré une alimentation saine, ou alors ayant une alimentation assez correcte, c'est que tu te gardes une réserve de ne pas être suffisamment correct. Je sais que tu vas me dire, c'est une analyse un petit peu bateau que tu es en train de me faire, et t'as raison. En fait, j'ai remarqué une chose, c'est que quand on met un peu de nuance, par exemple, si je te disais « je m'entraîne plutôt régulièrement » ou « je m'entraîne plutôt intensément ». En fait, ce « plutôt » ou le mot « assez correct » ou des choses comme ça, ça te dit que tu n'es pas à fond. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu sais que tu peux faire mieux, mais que tu es globalement mieux que la moyenne. Ce qui est déjà très bien. Mais en fait, dans ta question, tu as une partie de ta réponse. Et la partie de ta réponse, c'est que tu sais cette petite marge de « assez correct », c'est ça qui te permettrait de virer un petit peu ta bouée, comme tu dis, autour de tes abdos. Ça, c'est la première raison. Beaucoup de personnes, je peux te le garantir, me disent toujours la même chose. Théo, je m'entraîne intense. Et même quand je le vois, c'est des personnes qui s'entraînent intense. Mais la réalité, c'est qu'au niveau de la nutrition, il y a suffisamment d'erreurs pour que les résultats soient pas suffisamment visibles. C'est-à-dire qu'ils ont des résultats, mais pas à la hauteur de leur espérance. Et ça, c'est la nutrition, malheureusement, qui est encore ou mal compris, ou pas assez rigoureuse. Ça ne veut pas dire qu'elle peut être détestable, hein. Ça veut simplement dire qu'elle n'est pas assez rigoureuse. Et d'être rigoureux, ça peut se jouer, par exemple, sur un repas d'écart en plus par semaine. Moi, j'en avais déjà parlé, j'en ai parlé même dans un mail auquel j'ai répondu hier, là, que j'avais par le passé, quand j'ai mis mon protocole en place pour perdre du poids et tout ça, je me rendais compte d'une chose, c'est que si je faisais à l'époque, mon repas d'écart, c'était les fast-food. J'aimais bien manger fast-food parce que c'était quelque chose que j'aimais avant de me mettre à la musculation. Et je m'étais dit, je vais essayer de faire un régime où je conserve quand même un fast-food par semaine, pris le week-end, comme ça, pour un petit peu relâcher la pression du régime. Il y en a beaucoup qui vont se dire c'est pas bien de se frustrer au régime. Ouais, peu importe. De toute façon, tous les régimes qui frustrent pas, c'est des régimes qui marchent pas. Hein. Je vous le dis direct. Je connais personne qui a fait un régime facilement les doigts dans le nez en mangeant à sa faim et qui avait la banane, etc. Non, sinon les personnes n'auraient pas eu besoin de faire de régime, parce que si on a besoin de faire un régime, c'est que ben voilà, et c'est qu'on a pris des mauvaises habitudes alimentaires. Donc forcément, ces mauvaises habitudes, quand elles sont perdues, quand elles sont éloignées, quand on commence à faire autre chose, ben forcément, on se frustre de notre passé qui était plus confortable. Donc moi, je préfère être cohérent avec tout le monde. Faire un régime, il y a une partie frustrante à des moments. Moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est de réduire ces périodes de frustration, c'est-à-dire au lieu d'être frustré pendant 3 mois à faire un régime du matin au réveil jusqu'au soir au coucher, je préférais être frustré ponctuellement pendant quelques minutes dans la journée, juste le temps de se retenir un petit peu, et après tout se passe bien. Bref, c'est mon point de vue, je préfère être cohérent, parce que les gens qui veulent caresser tout le monde dans le sens du poil, ça me hérisse à moi le poil, parce que ça encourage les gens à ne pas perdre leur poids, ça essaye de les rassurer à s'accepter comme ils sont, alors que potentiellement ils ont des risques pour la santé d'être en surpoids. Aujourd'hui on le sait, je parle pas de Covid, je parle de santé métabolique, le diabète, mais même Alzheimer et toutes ces maladies-là, hein, qui dit trouble métabolique, dit aussi potentiellement de l'inflammation et à terme un développement de maladies auto-immunes ou autres. Donc bref, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, comme tu me dis, dans ton alimentation assez correcte, la première clé pour toi, c'est de manger correctement. Point. Il faut pas que tu mettes le assez, que le suffisamment, tout ça. Non, il faut que tu manges correctement. C'est-à-dire que tu aies ta diète qui te permette de perdre ton gras. Point. On ne perd pas une bouée en faisant des choses, on va dire, approximative. Il faut y aller à fond, surtout quand c'est plus qu'une bouée à perdre, justement, comme tu dis, parce que la bouée, c'est souvent le gras récalcitrant, donc celui qu'on perd le plus difficilement, c'est là où on stocke le plus, si tu es un homme, et c'est le cas. Donc du coup, plus tu as... En fait, beaucoup de personnes ne maîtrisent pas quelque chose qui est fondamental. Plus on a du poids à perdre, plus une alimentation assez correcte va fonctionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a beaucoup de poids à perdre, c'est qu'on est allé loin, en fait, dans les mauvaises habitudes, dans l'inactivité, la sédentarité, etc., couplé à une génétique qui encourage à prendre du poids, etc. Donc la personne a eu une configuration dans sa vie qui a fait qu'elle a pris beaucoup de poids. Si cette personne-là, donc elle est à, on va dire, à plus 30, plus 40 kilos de son poids de forme, cette personne-là, quand elle va commencer à manger relativement correctement, ou assez correctement, ou un peu plus sainement, cette personne-là va avoir pas mal de résultats. En fait, elle va commencer à avoir des bons résultats, alors qu'une personne, à l'inverse, qui a déjà pris des bons réflexes et tout, fait du sport et tout ça, et qui arrive en fait à la dernière ligne droite, le dernier sprint final, la bouée autour du ventre, le gras un petit peu récalcitrant sur le bas des fessiers ou le bas du dos, et ben là elle se rend compte que cette alimentation qui lui a donné des résultats ne marche plus. Parce que là, en fait, c'est aller chercher les dernières troupes qui sont cachées dans les tranchées, quoi. Il faut y aller, faut aller au charbon, quoi. Et ça, la problématique, c'est que souvent les personnes ont un biais cognitif. Pour elles, petite couche de gras restante égale petits efforts. Non, en fait, plus la zone graisseuse est faible et petite, c'est les derniers restes de la diète, entre guillemets, plus ça va être difficile de les déloger. À l'inverse de quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que plus vous avez du poids à perdre, plus c'est facile de le perdre. C'est-à-dire que des petits réflexes de style de vie, vous mettre au sport, bouger plus et manger sainement, ça va donner déjà des bons résultats. Alors que quand vous arrivez à la fin de votre diète, proche de la ligne d'arrivée, quand justement c'est ces petites zones de gras là, un peu récalcitrantes qui restent, vous vous rendez compte que là, vos efforts ne suffisent plus. C'est-à-dire que c'est plus le moment de courir en vitesse de croisière, vous êtes plus sur le marathon, vous êtes sur le sprint final. Et le sprint final, il est intense, il est difficile, il est taxant, il est épuisant, il est fatigant, il est tout ce que vous voulez. Et en fait, c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Ils se disent, mais j'ai juste un petit peu de bide à perdre, c'est tout, un petit peu là, cette petite couche à perdre. Donc c'est des petits efforts à faire. Non, petit gras à perdre ne veut pas dire petits efforts. C'est plutôt inversé, en fait. Et observez, vous allez voir des personnes qui ont autour de vous, même si vous regardez des émissions et tout ça, vous voyez des personnes qui étaient obèses, qui ont fait un régime et qui ont maigri, qui sont pas hyper sèches avec des abdos à la mode fitness comme vous et moi, mais vraiment qui ont eu des super résultats, donc mais parfois qui ont perdu beaucoup, beaucoup de kilos, qui se comptent par dizaines, et vous regardez leur diète et vous dites, eh ben leur régime, c'est pas si restrictif que ça, finalement, hein. C'est normal, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont beaucoup à perdre, donc potentiellement qui consommaient beaucoup d'énergie, consommées par l'alimentation, et qui en brûlaient assez peu par leur rythme de vie. Et là, vous, vous êtes plutôt dans un schéma qui est diamétralement opposé, c'est-à-dire que vous dépensez déjà beaucoup avec le sport, vous en mangez déjà peu avec votre diète, donc du coup, vous vous dites, c'est qu'une petite un petit réglage à faire pour que j'arrive à perdre ce gras qui reste. Bref, je continue. Donc, si tu restes dans l'approximatif, donc le assez correct sur l'alimentation, ça fonctionnera pas parce que ce que tu attends là, cette dernière bouée que tu as autour de la taille, c'est la problématique de 90% des pratiquants. Je le dis tout de suite, c'est souvent cette dernière petite bouée qui fait la différence entre un athlète accompli à qui on veut ressembler et une personne lambda en fait qui s'entraîne mais voilà, toi aussi t'as le petit bouillide, t'as le petit bas du ventre, t'as le petit machin. Et en fait, c'est ça la différence entre les deux. Et donc c'est hyper compliqué à voir et c'est hyper compliqué parce qu'il faut faire des efforts suffisants. Et donc du coup les efforts suffisants, ça passe par ce régime restrictif. Deuxième chose, as-tu des conseils pour, visuellement pour compenser ça, parce que tu dis que t'as les clavicules courtes, etc. Oui, en fait, visuellement, tu peux toujours travailler à ça. Moi, je recommande toujours aux personnes qui ont un tour de taille qui est relativement large, donc au niveau de l'ossature, de faire un travail assez acharné au niveau des bras pour prendre de la masse musculaire. En fait, tout ce qui dépasse, donc tout ce qui est censé dépasser, donc les bras, surtout les triceps et la partie externe des triceps, donc la partie que vous voyez quand vous êtes de face, vous savez je sais pas comment vous le dire autrement, en audio c'est compliqué, mais quand vous êtes de face, la seule partie du triceps que vous voyez quasiment, en fait, quand vous avez les bras le long du corps, qui vous fait la petite boule, la petite ondulation à l'extérieur du bras. Donc cette partie-là à travailler, parce qu'elle va donner du volume sur le côté, donc du coup potentiellement donner une illusion de tout ce qui est au milieu plus fin, donc la taille un peu plus fine. Également la partie moyenne des épaules, donc la partie, ce que vous développez avec les élévations latérales, etc. Ça, vraiment, vraiment le travailler. Plus tu vas gagner du volume et du galbe là-dessus, plus tu vas affiner ta taille. Un petit peu les trapèzes, mais pas trop. De toute façon, les trapèzes, si t'es un pratiquant naturel, tu n'auras jamais des trapèzes de bodybuilder. Tu peux bien les développer, mais ils n'auront jamais cette rondeur d'un bodybuilder professionnel qui utilise des produits dopants, etc. Sauf si vraiment t'as un gros point fort. Et j'ai vu quelqu'un d'ailleurs par le passé qui avait un super point fort et qui, je sais, ne prenait rien puisqu'il n'avait pas un physique de titan, hein, mais il avait quand même une prédisposition à prendre des trapèzes assez puissantes. Mais ça ressemblait pas à des trapèzes de bodybuilder. Donc, fais attention aux trapèzes si t'as un gros point fort sur les trapèzes. Continue à les travailler, mais ne les bosse pas d'une manière à les développer à l'extrême. Parce que plus tu vas avoir les trapèzes développés, plus tu vas avoir, visuellement, ta largeur d'épaule qui va se rétrécir. Donc, préfère plutôt un travail assez intense sur la partie moyenne des épaules, donc le faisceau latéral des épaules. Et donc, du coup, avec ça, tu vas pouvoir gagner un peu. Donc, triceps. Donc bras dans la globalité, avant-bras aussi, hein, parce que les avant-bras donnent cette épaisseur. Hein. Donc avant-bras, bras, préférentiellement les triceps. La partie le médium, le milieu ou la partie latérale, je ne sais pas comme tu préfères l'appeler, des épaules. Également les pectoraux, parce que les pectoraux, en donnant de la masse, si tu veux, surtout sur la partie que tu travailles bien quand tu fais des dips ou des écartés à la poulie vis-à-vis, tu sais, quand tu amènes les poulies vers le bas, donc toute la partie qui part de dessous l'aisselle jusqu'au milieu de pec, qui n'est pas forcément facile à localiser, puisque les pectoraux, ça travaille plus ou moins dans toute leur structure, enfin plus ou moins, hein, c'est plus et moins chez certaines personnes, mais globalement, cette partie-là que tu arrives bien à courbaturer sur des dips et tout ça, qui va donner un petit peu de galbe et de relief et d'expansion, on va dire, entre guillemets, à tes pectoraux quand tu seras de face, donc sur les flancs, juste au niveau des aisselles, là, qui se travaillent avec le développé couché et tout. Hein. Mais essaye de travailler des mouvements qui courbaturent cette zone-là, pas trop au niveau du tendon non plus, parce que ça voudrait dire que potentiellement, tu peux aussi t'abîmer le tendon. Donc voilà ça. Travaille ta sangle abdominale en gainage, tu sais, pour travailler le transverse, pour avoir la taille plus fine, et également au niveau des obliques, pour avoir des obliques plus toniques, et aussi ton grand dorsal, enfin tes dorsaux globalement, donc sur le travail de traction, de pullover également, tout ce qui va t'aider à gagner en fait en épaisseur sous les aisselles. Tous ces mouvements-là, en fait, tous ces de travail de groupe musculaire-là vont aider non pas à réduire ta taille réellement, mais à augmenter en fait en haut donc tes proportions, ta morphologie, en fait, ça va augmenter, donc potentiellement tu réduis ta taille, puisque si tu prends tout ton, alors ta taille ne va pas réduire en tant que telle, mais en fait tu remets des nouvelles normes en créant des nouvelles masses musculaires, c'est-à-dire que ton physique n'est plus ce qu'il est aujourd'hui avec une taille plus large qu'un tour d'épaule, mais ça va être inversé. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de masse musculaire sur le haut du corps, on va dire pectoraux, épaules, bras, avant-bras et tout ça, et dorsaux. Donc, tu auras créé une nouvelle norme. Donc, en fait, la taille que tu jugeais large avant ne le sera plus réellement. Par contre, par rapport à une personne qui a des épaules larges au niveau de l'ossature et une taille fine au niveau de l'ossature, du bassin, cette personne-là, en fait, quoi qu'elle fasse, c'est-à-dire que même si elle s'arrête de s'entraîner, qu'elle devient complètement rachitique, qu'elle perd tout son muscle, elle va garder ce ratio-là. Alors que toi, tu ne le garderas pas puisque ce que tu as créé, c'est de la viande, de la masse musculaire. Donc potentiellement, si tu arrêtes de t'entraîner, tu perdras ce nouveau ratio que tu as créé avec des épaules larges et une taille fine. Donc c'est la seule différence. Tu peux corriger une taille trop large, par contre, ça engage que tu vas devoir t'entraîner, au moins maintenir cette masse musculaire que tu vas développer pour conserver ce ratio-là. Donc je pense qu'à 30 ans, si tu arrives à t'entraîner, tu y arriveras toute ta vie. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu ne devrais pas minimiser l'action d'une diète stricte sur les effets du tour de taille, mais également voir à sacrifier certains groupes musculaires que tu juges forts au profit. De toute façon, tu peux toujours travailler le dos, hein, puisque sauf qu'au lieu de travailler trop en rowing et tout, tu vas t'amuser plus à travailler sur des tirages type traction et tout pour essayer de gagner en viande sur le côté, là, comme je te disais, sur le grand dorsal. Pareil pour tes épaules, au lieu de faire l'avant d'épaule, l'arrière d'épaule, bien que je conseille quand même de faire l'arrière d'épaule assez régulièrement, travaille aussi sur le côté. Sur le côté des épaules, donc plutôt bouffe de l'élévation latérale sous tous les angles élastiques, poulie, halter, etc. Les bras, pareil, hein, la courte portion du triceps, les avant-bras, enfin bon, voilà. Et tu peux remanier ton programme qui aille tout le temps dans le sens de ça. Alors, il faut être objectif aussi, tu ne verras pas les résultats. Tes résultats, tu ne les verras pas toi à l'œil. C'est juste avec les années, enfin même avec les mois d'entraînement. Si t'es intense, c'est sur les photos que tu le verras. C'est-à-dire que, là, tu vois que ton tour de taille te semble plus fin. Mais c'est un petit peu comme une personne qui commence à s'entraîner, il voit jamais les résultats dans le miroir, il les voit que, au bout d'un certain temps, parce qu'il se compare à lui-même dans le passé, quoi. Bon, voilà. Voilà ma réponse à ta question. Et au fait, je le répète, mais si ça vous intéresse de vous entraîner correctement à la maison et que vous savez pas comment installer tout ça, le home gym minimaliste, mon home gym minimaliste, allez voir le lien, c'est dans les notes de l'émission. Si vous voulez me poser une question, comme l'a fait Alexis, vous avez également le lien dans les notes de l'émission, là, avec marqué votre question à me poser ici, vous avez un lien, ça vous permet de me poser une question 100% anonyme, 100% anonyme. Là, Alexis a signé, donc je le cite, mais si vous signez pas, je ne peux pas savoir, je n'ai ni votre email, ni votre prénom. Donc, c'est quand même, ça vous permet de me poser la question que vous voulez. J'ai pas mal de questions déjà en attente, certaines sur les blessures, beaucoup sur les TCA. J'essaye de faire tourner un petit peu les questions pour que ça soit pas toujours sur les TCA, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des TCA, contrairement à ce que je pouvais penser par le passé, et je pense que ce formulaire de questions anonymes leur permet un petit peu de s'exprimer, un petit peu plus que les femmes qui, elles, ont moins de mal à s'exprimer sur les TCA. Les hommes ont beaucoup de mal, donc du coup ce côté un petit peu anonyme permet un petit peu de sortir du silence pour certains mecs, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que les TCA, avec Instagram, avec les abdos et toutes ces choses-là, c'est un petit peu un mode de vie qui encourage, je vais pas dire les plus faibles, mais les plus extrémistes à pouvoir développer ce genre de choses. Et il suffit parfois de pas grand-chose pour développer des TCA, je vous le garantis. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour dans les notes de l'émission. Vous avez tous les liens pratiques et voir mes recettes, voir tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Et ceux qui basculent en VIP, on se dit à tout de suite en vidéo pour 400 heures de formation. Bye bye.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.